Bonjour. Aujourd'hui, Aéropage sort des murs du studio et vous emmène à Saint-Clément-de-Rivière pour les rencontres paroles d'auteurs qui ont eu lieu le 19 juin. Au fil de cette promenade littéraire, je vous propose de rencontrer successivement Florence Tolozan, que nous avons déjà reçue pour La Chinoise du tableau, Véronique Cauchy, qui écrit des livres pour enfants, et Isabelle Vodarchi, qui est en même temps écrivain, autrice, comédienne, chanteuse. Elles vont vous parler de ce qu'elles aiment faire le plus, écrire. Je vous laisse donc en leur charmante compagnie. Bonjour Florence.
Bonjour Nathalie.
Vous allez bien ?
Oui, ravie de vous revoir.
Ben, nous aussi. Et puis surtout de revoir voir que la chinoise du tableau a une très belle carrière.
Oui,
vous allez nous en parler ?
Effectivement. Nous nous étions rencontrés juste après sa sortie, parce que le livre est sorti en décembre 2019. Et je crois que je suis venue à la radio en février, me semble. Février 2020, voilà. Et depuis, ben écoutez, il a été déjà récompensé. Je crois qu'il était déjà à l'époque par le prix Parole d'auteur de Saint-Clément.
Tout à fait.
Ensuite, il a été sélectionné pour d'autres prix où il est arrivé souvent en deuxième place, finaliste, notamment pour le prix féminin pluriel Montpellier Méditerranée et pour le prix régional de littérature Lyon. Enfin, Lyon Club.
Lions Club,
voilà.
C'est chic.
Et pour voilà, le prix de la ville de Saint-Nice, etc. Ensuite, il est sorti en version numérique,
oui.
En livre audio.
Et en poche.
Et en poche, récemment, le 20 mai. Et ensuite, que dire d'autre ? Oui, il va être traduit en allemand.
Il a été traduit ou il va ?
Il va être, voilà, il va être
anglais-allemand.
Alors, anglais aux États-Unis, par les éditions Harvard Square. Qui c'est un éditeur d'anciens élèves de Harvard qui ont monté une maison d'édition, et en Allemagne par les éditions Drakenhaus Verlag, qui est un éditeur spécialisé en littérature culture chinoise, on va dire. Voilà.
Et des belles rencontres ?
Bien sûr, deux belles rencontres magnifiques, des salons, des dédicaces en librairie. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été annulées à cause de l'épidémie. Notamment les dédicaces que je devais faire chez Sorams et chez Cultura. Et que pour l'instant,
c'est une partie remise.
J'espère, parce qu'entre-temps, d'autres livres sortent et c'est vrai que ce n'est pas évident.
L'année dernière, je vous avais vu aussi sur le marché de Saint-Martin.
Oui, Saint-Martin de Londres.
Vous le refaites cette
Oui,
année
je le refais cette année, les vendredis du mois de juillet, le 16 juillet et les trois vendredis qui suivent.
C'est des moments sympas d'être,
oui.
Même si vous êtes coincé entre. Des marchands de légumes, des churros,
oui.
C'est peut-être comme ça aussi qu'on amène la littérature.
Oui, c'est vrai, c'est vrai que les gens, des fois, ont du mal à venir dans un salon du livre, ne serait-ce que parce que toute la famille n'aime pas lire, donc c'est difficile de dire je vais tout seul à ce salon du livre et puis vous faites autre chose, surtout quand ça tombe un week-end. Hein. Donc les gens, par contre, en allant dans un marché, chacun y trouve un intérêt. Certains viennent pour retrouver des objets, des bijoux, d'autres de la nourriture. Et toute la famille y va et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était plus facile.
Même si des fois, il n'y a pas, par exemple, le père de famille qui va être passionné par le sujet, et puis derrière, la femme et les enfants qui attendent la discussion.
Oui, effectivement.
Parce que je pense que vous... Enfin, moi, je vous avais rencontré l'année dernière, un jour où vous aviez fait presque une dizaine de Vendées.
Oui,
vous
avez
vraiment eu du monde. Et les gens s'arrêtent, commencent à discuter. S'ils connaissent la Chine, ils échangent avec vous.
Ah oui.
Et puis, il n'y a pas les autres derrière qui s'impatientent.
Voilà, de temps en temps, ça arrive aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des échanges au niveau de la Chine. Et j'ai pu rencontrer aussi sur des sites, sur Facebook, sur Internet, des sites de Chinois et de Franco-Chinois, de sinologues, etc. Où je continue à apprendre beaucoup de choses sur la Chine. Et c'est très enrichissant.
Vous attendiez un tel succès ?
Pas du tout.
Non ?
C'est vraiment une grande surprise pour moi.
Moi,
je suis un peu dépassée même. Je suis dépassée par l'ampleur que ça prend, hein, on va dire. Je sors de ma zone de confort parce que je fais des choses que j'aurais jamais fait. J'ai tenu des conférences à l'Institut Confucius de Montpellier et aussi de Angers. Donc là, c'était une conférence. Hein. Les gens attendaient que je parle pendant une heure et demie de mon livre et de la Chine. Donc j'ai dû travailler tout ça pour peaufiner mon apport, etc.
Si vous l'avez abordé en toute humilité, moi je me rappelle, je crois que ça fait 3 ou 4 ans que je viens à Parole d'auteur. Et la première fois que je vous ai vu, vous aviez un facsimilé, enfin je ne sais pas comment on appelle
ça. Un manuscrit.
Un manuscrit, mais dans un grand livre.
Et
vous avez fait une reproduction. Et puis vous étiez venu me voir, parce qu'à l'époque je travaillais encore en librairie. Et vous savez comment je pourrais me faire éditer, quoi. C'était vraiment...
Et puis il y avait tous les gens qui venaient. Il y avait, en plus, cette année-là, il y avait Gare Morin.
Oui.
Donc il y avait du beau monde. Et vous aviez l'air de découvrir ce monde avec émerveillement.
Ah oui,
on n'aurait jamais dit que 3 ans après, enfin 2 ans après même, deux éditions après, vous avez eu le prix de parole d'auteur. Vous êtes reconnue quand même comme un écrivain maintenant. Et vous avez eu plein de belles expériences.
Oui, c'était une belle reconnaissance. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à ce premier salon parole d'auteur, les organisateurs, comme je suis du village, m'avaient proposé de venir quand même et de présenter. Ils m'ont offert un petit coin de table pour présenter mon manuscrit. Donc c'est vrai qu'il était sous forme de manuscrit, format A4, relié seulement recto, parce que les éditeurs demandent des livres imprimés seulement sur le recto. Donc ça faisait un gros pavé. Et les gens étaient intrigués, ils venaient me demander. Donc j'étais contente d'expliquer mais comment on fait pour écrire un livre, quelles sont les étapes, à qui. Mais il me manquait la dernière étape, qui était l'étape de l'édition, et qui est quand même le chemin le plus difficile, le plus long et le plus difficile, et puis souvent, rarement couronné de succès quand même.
C'est très très difficile.
Voilà, donc j'ai eu cette chance quand même d'avoir été repérée. Par le...
Vous pouvez nous en dire quelques mots quand même de votre maison d'édition ? C'est une maison d'édition qui a 3-4 ans, je crois.
Qui a 3 ans depuis hier. Hein,
j'ai vu qu'ils fêtaient leur anniversaire.
Voilà. Ouais. Et c'est un éditeur lyonnais qui petit à petit...
M plus édition. C'est Marc Dutheil.
Oui.
C'est ça qui est derrière ça. Vous commencez votre carrière littéraire en même temps qu'une maison d'édition.
Voilà, on commence tous les deux et il y a vraiment un travail main dans la main. On coopère beaucoup et on a une très bonne entente. D'ailleurs, il va y avoir aussi une rencontre qu'entre nous pour que tous les auteurs puissent se voir, les correcteurs, les graphistes, etc. Pour qu'il y ait vraiment une...
Il y avait déjà cette affiche-là sur le manuscrit il y a 3 ans ou c'est depuis ? Parce que vous avez, la couverture est très belle.
Alors, ouais.
Et c'est vous qui l'avez fait ça ?
C'est moi qui ai proposé un dessin parce qu'au début, je pensais que je ne trouverais jamais d'éditeur. Donc je m'étais dit que j'allais m'auto-éditer. Donc j'avais commencé à dessiner cette chinoise. Et quand mon éditeur m'a contacté, il l'avait déjà vu sur Internet, sur ma page Facebook. Il avait déjà vu cette proposition de couverture et il a dit « moi je la veux ». Je vous prends avec la couverture. Elle a été remaniée après par son graphiste qui a amené sa touche professionnelle, qui a lissé certaines couleurs, etc. Et là, un livre de poche, par contre, c'est une couverture tout à fait différente, qui a été complètement créée par le graphiste. Il a mélangé des photos de plusieurs. Pour créer le personnage, il a utilisé au moins 3 ou 4 photos de chinoises qui ont été mélangées par l'ordinateur de manière à créer une personne unique.
L'autre fois, je discutais avec Francine, donc, qui organise le festival auquel on est aujourd'hui. Et je lui disais qu'il n'y avait que 30% des auteurs qui avaient la chance pour un premier livre d'être édité par une grande édition.
Ouais,
c'est vraiment une belle histoire.
J'ai tout à fait conscience que c'est une chance énorme. Et chaque jour, je me félicite de ça. Je suis vraiment très émue de ce parcours et... Ça me semble même encore des fois irréel.
Un rêve.
Quand je pense qu'au début, j'osais pas, rien que sur ma page Facebook, j'osais pas mettre le mot auteur. Parce que j'avais l'impression que c'était presque...
C'est une chose formidable quand on vous rencontre. Alors bon, j'incite les gens à venir vous rencontrer dans les salons. Donc cet été, je le rappelle,
oui.
Saint-Martin-de-Londres.
Saint-Martin-de-Londres.
Puis à la rentrée, Quissac.
Quissac, Loudun-l'Ardoise.
Vous avez un site où vous échangez beaucoup
Vendargue
avec...
Vendargue aussi.
D'accord, Vendargue.
Oui, sur mon site, vous trouverez toutes les dates.
Florence Tolaisan, auteur.
Oui.
Et là, vraiment, à chaque fois que vous signez, vous y allez. Si on vous écrit... Il n'y a pas de problème.
Je réponds.
Si on vous dit où trouver votre livre, vous répondez aussi.
Voilà, vous pouvez le trouver en version numérique, en version audio, en livre de poche, en grand format.
Question qui tue pour la dernière minute. On s'est replongé dans l'écriture, Florence, ou on savoure déjà
Je me suis replongée dans l'écriture au moment du premier confinement.
D'accord.
Mais c'est vrai que depuis la sortie du premier confinement et encore plus là depuis la sortie du deuxième, j'arrive moins à trouver de temps parce que je m'occupe de ce premier livre. Mais c'est pas grave, les choses continuent à cheminer, et ça laisse reposer, c'est très bien. Voilà, je trouve que c'est très bien de toute façon, même pour le premier, il y a des moments où il faut laisser.
Un petit teasing.
Alors, je pense qu'il se déroulera à Bali normalement, puisque j'aime bien aussi profiter de mes voyages pour continuer à me documenter sur ce pays, continuer à apprendre, parce que j'aime aussi apprendre. Donc,
bien sûr, mais on apprend plein de
choses. Et après, apprendre aux autres aussi, transmettre ce que j'ai appris.
Ben, merci beaucoup sur ces belles paroles.
Je vous remercie.
Merci d'avoir accepté cette courte interview. Mais c'est bien, c'est les rendez-vous réguliers qu'on a toutes
les
deux, c'est formidable.
Merci
beaucoup et belle carrière.
Au revoir Nathalie, merci.
Au revoir. Et bien, toujours en direct du Festival Parole d'auteur à Saint-Clément-de-Rivière, je continue ma promenade littéraire et là je vois un très joli stand de livres pour enfants et surtout derrière quelqu'un que je connais bien depuis pas mal de temps et qui a son actif, elle vient de me le rappeler quand même, 70 textes de livres pour enfants. Bonjour Véronique Cauchy.
Bonjour.
Je suis ravie de vous revoir parce que je suis venue, je crois que c'est la quatrième fois que j'ai un parole d'auteur et je vous ai jamais vue en tant qu'exposante. Vous étiez venue voir vos amis parce que vous avez plein de copines dans ce microclimat littéraire à Saint-Clément.
Oui.
Vous en êtes où en ce moment ?
En ce moment, je suis entre deux livres très très importants pour moi, puisque je viens de sortir Enfance volée aux éditions Adodan, qui est un livre mixte, dans le sens où il y a quatre fictions qui concerne les enfants au travail et une partie documentaire. Et donc, toujours chez Adodan, un autre livre pour Adodan dans cette collection Un monde pas à pas, qui est une collection où on parle des grands enjeux du monde, mais à vision d'enfant.
C'est pour des enfants de quel âge ?
C'est pour le collège, donc c'est à partir de 10 ans.
Parce que, enfin, moi qui connais bien ce que vous avez écrit,
oui.
Ça va vraiment de tous les âges, pour tous les âges, du plus petit à l'ado. Je dirais même que, bon, moi j'ai une passion, on vient d'en parler en off, mais pour un éléphant, des oreilles d'éléphant dans mon jardin, qui est édité par une petite maison d'édition locale, qui a demi-mot. Je pousse vraiment beaucoup cette... Elle et le Diplodocus, c'est des petites maisons d'édition régionales pour enfants qui font du travail formidable. Et ce livre est une passion, mais ça pourrait, je vais l'offrir pour les adultes. Il est tellement beau qu'on peut l'offrir pour les adultes, ce livre.
C'était d'ailleurs l'objectif premier de l'éditrice quand elle m'a contactée. Elle voulait des textes qui soient à la fois pour les adolescents et pour les adultes.
On apprend plein de choses sur ces plantes exotiques qui ressemblent à des oreilles d'éléphant.
Ce sont aujourd'hui trois bestiaires. Alors, il y a deux bestiaires botaniques et il y a un bestiaire mycologique. L'idée, ce sont que des plantes ont des noms vernaculaires. Dans leur nom vernaculaire, il y a des parties d'animaux. Et dans le dernier, c'est un bestiaire mycologique qui a donc exactement, c'est exactement le même principe. Certains champignons ont dans leur nom vernaculaire une partie d'animal. Et donc, on se demande comment ces plantes ou ces champignons ont eu cet animal dans leur nom. Alors, ce sont des contes tout à fait loufoques, bien sûr. Cependant, dans les livres, il y a une partie technique.
Presque herbier, oui.
Voilà,
oui.
Sur la plante ou sur les champignons. Cette partie technique est donc très...
pointue, sérieuse, oui. Mais c'est fort dans votre œuvre, ça, parce que moi, quand j'étais libraire, il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est là où on s'est rencontrés, il y avait un titre très pédagogique que j'avais vendu, je crois, 40 exemplaires en un mois. Ça a été un truc fou. C'était ce qu'il faut faire et pas faire, etc. Enfin, j'avais plein de copines. Ça avait été d'ailleurs la folie. Vous voyez lequel ? C'est une collection de quatre.
Les bonnes manières racontées, expliquées aux enfants.
Mais très drôle. Je me souviens aussi du point sur le i. C'est l'histoire du point sur le i. Un livre aussi avec des noirs et blancs. Des choses très pédagogiques sur le harcèlement scolaire. C'est un sujet qui vous tient à cœur, j'ai l'impression.
Finalement, mes éditeurs me demandent beaucoup de choses pédagogiques ou... Je propose beaucoup de choses pédagogiques parce que ça marche en fait dans les deux sens. Et je me rends compte que dans les 70 livres que j'ai faits, effectivement, on peut voir que beaucoup sont des ouvrages didactiques ou pédagogiques.
Pour les plus petits, c'est quel âge le plus petit texte que vous ayez fait ?
C'est un ouvrage cartonné, je n'en ai qu'un, qui s'appelle « Tous différents ». Qui se passe dans une école, tous les animaux sont différents, mais on ne sait même pas que ce sont des animaux au départ, car on ne voit que des regards. Et y a des couleurs différentes, les regards sont différents selon les pages, on tourne les pages, et à la fin, effectivement, on dit que dans cette classe, tous sont différents, on tourne les pages, on voit que tous les regards sont différents, et effectivement, on tombe sur une page où la classe On voit la photo de classe et on voit que oui, il y a une girafe aussi bien qu'une puce. Donc, ils sont très, très, très différents. Et ce qui est drôle dans le livre, c'est qu'une fois que les enfants ont compris ça, il faut retrouver qui est qui.
Les regards.
Avec les petits détails qui sont dans les regards, parce que parfois il y en a un qui a une barrette, parfois il y en a un, on voit un petit chapeau dépasser, parfois on voit un collier, enfin voilà. Il y a juste un petit détail qui dépasse avec le regard, qui est en plus du regard. Donc c'est les premières manipulations de livres
pour
avec ce cartonnet. Oui. Et en plus, il y a quand même une histoire parce que ça ne se finit pas à la photo de classe. Si on tourne à nouveau le livre, l'avant-dernière page, c'est cette photo de classe, mais il y a une dernière page. Et la dernière page, eh bien, c'est une cour de récréation où tous les animaux jouent ensemble. Eh bien oui, ils sont différents, mais ça ne les empêche pas de tous jouer ensemble.
Il y a souvent ce message-là dans ce que vous écrivez de fraternité, de tendresse humaine, de bienveillance les uns près des autres.
Et de tolérance vis-à-vis de la différence, oui.
Je me rappelle avoir lu un livre aussi sur un petit garçon qui est vraiment très dépendant des jeux vidéo. Vous voyez ce que je veux parler ?
Sur les... Oui, c'est un zombie dans ma maison.
Voilà, ça m'avait beaucoup touchée. C'est pour enfants de 8 ans à peu près,
oui,
ça.
Ouais. C'est justement, celui-ci a une place particulière dans mon cœur, car c'est le premier roman que j'ai écrit. D'ailleurs, j'en profite ici.
C'est un court roman.
Oui, c'est un court roman. C'est le premier roman que je me suis remis à écrire pour... les enfants. Je remercie mon éditrice Galia Tapiero de Kilowatt, car c'est elle qui m'a dit « Allez Véronique,
écris-le, vas-y.
Voilà, je vais faire des romans, écris-moi une petite histoire. Je vais lancer une collection sur des problèmes que peuvent rencontrer des enfants en primaire. » Pas des problèmes énormes, mais des problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours et qui leur posent, qui les embêtent quand, qui les embêtent bien quand même. Et donc là, le premier que j'ai écrit pour cette collection qui s'appelle Les Capoches chez Kilowatt, c'est Un zombie dans ma maison, et ça, c'est effectivement la dépendance au jeu.
Moi, ça m'avait beaucoup frappé. C'est un texte court, mais c'est pareil. À chaque fois que je le proposais à des parents dans le magasin, oui, il y avait un emballement sur le sujet, parce qu'en plus, c'est vraiment un sujet qu'angoisse beaucoup les parents, le jeu vidéo. Oui. Donc, d'avoir une réponse et puis que l'enfant puisse, à travers un livre, avoir quelqu'un qui vit la même histoire, c'était vraiment très touchant.
Ce qu'on a voulu aussi dans cette collection, c'est que l'enfant, bien sûr, peut lire le livre, mais on voulait aussi que toute la famille puisse le lire et que ce soit une base de discussion pour toute la famille. C'était surtout ça aussi l'enjeu.
Donc 14 ans que vous écrivez des livres pour enfants.
Oui.
Chez beaucoup d'éditeurs, parce qu'on dit
70 livres et à peu près une vingtaine d'éditeurs.
Dont les grands, hein, Fleurus, Larousse, et puis des tout petits.
Voilà.
C'est formidable d'ailleurs.
Voilà, un petit peu tout le monde.
Alors pour passer du petit roman, il nous reste un peu plus d'une minute, pour passer du petit roman court, oui, à un vrai roman, pour grandes personnes, pour moi par exemple. Est-ce que d'abord vous en avez eu envie ?
Alors oui, en ce moment j'ai très très envie de le faire, et en ce moment d'ailleurs je suis en train de le faire. Alors je ne sais pas si ça aboutira, parce que c'est une démarche très différente, où il faut avoir beaucoup de temps disponible, et bon, je n'abandonne pas la jeunesse, hein, j'ai toujours des...
Vous êtes seule ?
Oui.
Parce que dans les livres pour enfants, il y a quand même le travail avec l'illustratrice qui est un peu conjoint, pas du tout. Chacun travaille dans son coin.
Chacun travaille de son côté, mais...
Mais c'est un projet commun. Là, c'est un projet toute seule.
Oui, 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 mon roman est un projet solitaire. Mon roman pour adultes est un projet solitaire. Et c'est un projet que je porte depuis très très longtemps, depuis de nombreuses années. Donc, j'ai espoir qu'un jour il aboutisse, mais j'ai besoin de longues plages horaires pour y travailler. c'est pas toujours évident de trouver ces longues plages horaires, puisque je cumule aussi mon travail d'auteur avec un travail de directrice de collection chez un éditeur scolaire. D'accord. Donc je cumule un petit peu aussi les handicaps pour pouvoir écrire pour les adultes.
Le confinement, ça a été une période propice à l'écriture ou pas du tout? Ou ça vous a vidé d'énergie?
Alors, j'avais une BD à écrire pendant ce confinement et la BD m'a pris 6 mois. Et de ce fait, le confinement, je ne l'ai pas vu passer à cause de cette BD qui s'appelle « Côme et le fantôme ». Et voilà.
Donc cet été, pas encore beaucoup de salons, si?
Ça commence à revenir, c'est frémissant.
Vous avez une page, Véronique, page Facebook pour nos auditeurs?
Oui, j'ai une page Facebook.
Où vous remontez votre actualité quand, voilà,
tout
quand
à
vous
fait. J'ai un blog aussi, à mon nom, tout simplement, tape Véronique Cauchy.
Donc Véronique Cauchy, un blog, une page Facebook. Comme ça, vous aurez toute l'actualité de Véronique. Ben, merci beaucoup pour ce court moment. Puis je vous invite peut-être un jour où vous aurez le temps à venir partager un long moment à la radio avec nous pour qu'on parle encore plus profondément de votre œuvre. C'est vraiment une œuvre. 70 livres, c'est une œuvre. Merci beaucoup, Véronique Cauchy. À très bientôt. Au revoir. Eh bien, toujours sur FM+, je continue ma balade littéraire à Parole d'auteur à Saint-Clément-de-Rivière. Et après Florence Tolozan et Véronique Cauchy, je tenais à vous présenter un couple de création avec Isabelle Vlodarczyk.
Bravo.
Et Pierre Diaz. Donc, eh bien, sur leur table, des livres pour enfants.
Essentiellement, oui.
Essentiellement. Et puis, un livre pour adultes.
Oui.
Et puis, j'ai vu un sur Molière aussi, qui m'a beaucoup plu.
Oui, oui, oui.
Et celui sur le peintre, m'a énormément plu aussi au niveau graphique. Donc, ben, j'aimerais que vous vous présentiez. Et puis, je sais que, bon, visiblement, il y a un travail d'auteur, un travail d'édition et un travail de musique aussi, tout autour. Voilà, c'est un vrai projet. Donc je vous écoute.
Je suis autrice jeunesse depuis une bonne dizaine d'années. J'écris rarement pour les adultes, mais ça m'arrive, donc occasionnellement. Donc là, sur la table, on a essentiellement des albums qui sont créés par, pour ceux qui sont présents aujourd'hui, par les éditions Lirabelle, pour une bonne part, et c'est une maison d'édition qui est implantée à Nîmes, donc tout près d'ici. Ouais, voilà. Ce sont des livres dont j'aime particulièrement les illustrations. Donc moi, j'écris le texte, je ne fais pas les illustrations. Et cette maison d'édition a la particularité vraiment de s'entourer d'un panel d'illustrateurs vraiment variés et brillants dans le monde entier. Enfin, je trouve vraiment magnifique. Donc ça, c'est une bonne part des livres qui sont sur la table. Et le reste, ce sont des livres qui sont publiés par Babouche à oreille. Et Babouche à oreille, c'est une maison d'édition que Pierre et moi avons créée, qui a plusieurs particularités. Alors, je résume un peu et tu complètes.
Je t'en prie.
Ouais. Donc, on l'a créée il y a 3 ans, bientôt. Voilà, donc c'est récent. C'est une maison d'édition qui a donc la spécificité d'éditer des livres en musique. Ça veut dire que soit les parties musicales sont téléchargeables, soit... les parties musicales sont téléchargeables.
La lecture à musique est téléchargeable. C'est-à-dire que c'est le livre qui est lu avec une partie musicale par-dessus. Un peu comme... exactement comme des livres audio qu'on pourrait trouver. Mais là, l'audio avec la lecture du livre fait partie du prix du livre. On va parler prix, c'est-à-dire dans la mesure où on achète le livre, on télécharge comme un livre audio qu'on trouve maintenant avec cette lecture.
Il n'y a pas de CD en fait, contrairement au livre audio traditionnel.
On n'a pas opté dès le début pour les livres CD qui ont fait leur temps et qui étaient des beaux objets, mais parce qu'on s'est rendu compte que plus personne, très très peu de gens, avaient des lecteurs de CD chez eux, et que tout était organisé autour de l'ordinateur, de la tablette, du smartphone, et que les objets physiques avaient disparu au profit d'objets dématérialisés.
Vous connaissez le taux de transformation? Tous les gens qui achètent le livre téléchargent?
Oui.
Tous?
Ah, pas tous.
Voilà.
Alors... Ouais, non, le taux, non. Voilà. On ne le connaît pas exactement, mais pas tous. Ça, c'est clair. Je me rends compte qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par la partie audio. Alors, c'est d'autant plus vrai pour Les Jours de Poudre Jaune, qui est un roman qui est long. La partie audio, elle dure 4 heures. Et là, en plus, on l'a commercialisé un petit peu à part. Mais les gens vont plus vers le livre papier que vers la partie audio. Voilà.
C'est des livres grand format.
disait 21-27, c'est des grands livres.
Alors pour les albums, oui. Donc les albums, que ce soit donc publiés chez Babouche à Oreille ou ailleurs, j'ai souvent des très grands formats. Les romans sont des formats de romans assez standards, mais les albums sont grands, oui. Ouais.
C'est presque un format BD. Je disais, il y avait une couverture qui avait un côté BD dans la couverture.
Oui, tout à fait.
Pour la qualité, Isabelle parlait de l'Irabelle tout à l'heure aussi. L'Irabelle a aussi cette particularité de faire des beaux objets. C'est-à-dire qu'il lésine pas sur la qualité du papier, sur le montage.
Ouais,
c'est vraiment des beaux. Et nous, on a essayé de s'inspirer de ça. C'est-à-dire de faire des beaux objets et de ne pas lésiner sur la qualité du papier. Autant aujourd'hui, on peut penser que le dématérialisé fera l'avenir, autant on est sensible au toucher.
Surtout pour les livres pour enfants, je pense.
Oui, aussi. Mais c'est vrai.
C'est un domaine où, quand même, il y a...
Il y a la beauté de l'image, l'illustration, bien sûr.
Il y a l'idée de cadeau aussi, on offre un
livre. Oui, c'est ça.
C'est un objet, c'est un bel objet.
On n'offre pas seulement un livre.
Oui.
On voit d'ailleurs les gens qui se sont arrêtés devant votre table.
Ils touchent.
Il y a un côté sensuel avec le bouquin. Et puis on va offrir un objet, on va faire aimer la littérature, on va faire aimer le livre, je pense, dans la pensée des gens.
Par rapport au livre audio, puisque depuis un an, on a profité du déconfinement, en fait.
Du confinement.
Mais c'est vrai qu'on l'espérait tellement que ça sorte.
On a profité.
On avait tous compris.
On a profité de ça, parce qu'on n'avait plus de salon. Les livres, on a continué à en vendre. On était très surpris, parce qu'on continuait à en vendre par rapport aux librairies qui nous en commandaient. On était assez surpris, mais par contre, on ne faisait plus de spectacles, puisqu'on fait des spectacles aussi. On n'allait plus sur des salons pour des dédicaces, donc on a profité de développer le livre audio.
Numérique.
Et donc, qu'on trouve sur les quatre plateformes les plus importantes, qui sont Audible, Boucle d'oreille, Monkey et Kobo. Kobo, c'est la Fnac, etc. Voilà. Et bientôt un autre qui nous a contacté, mais maintenant on nous contacte, c'est plus nous qui cherchons. Et on s'est rendu compte de ça aussi, c'est-à-dire que le fait de le mettre en musique, c'est un petit peu comme le papier touché, la qualité du papier touché. Donc on s'attarde aussi à faire des livres audio en musique, où la musique aussi caresse l'oreille, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de différent d'une lecture. On a écouté plein de choses qui sont bien lues, mais qui parfois, à mon sens, sont un petit peu monotones. C'est-à-dire juste la lecture du livre avec des ponctuations, pour moi, ne suffit pas. C'est-à-dire ça ne caresse pas l'oreille comme le livre, quand on le touche, caresse les doigts. Et donc la musique a une place presque autant que le texte.
Qu'est-ce qui fait la musique ?
C'est moi.
C'est pour ça qu'il en parle.
C'est important
de...
Oui, non, mais c'est quelque chose... Dès qu'on a commencé à travailler, c'est quelque chose qui était important.
Et tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y avait des spectacles.
Oui, c'est ça.
Excusez-moi, mais ça a été dans quel sens ? Est-ce que vous avez d'abord fait un spectacle et vous avez dit, tiens, ça serait bien d'en faire des bouquins ? C'est dans ce sens-là que c'est
Alors,
passé ?
Pas vraiment. En fait, on a d'abord fait des spectacles sur des livres qui existaient, qui étaient imprimés, que j'avais écrits préalablement chez d'autres éditeurs. Je travaille pour plein d'éditeurs. Je suis autrice à plein temps. Donc après, il m'arrive de travailler pour tout un tas d'éditeurs différents. Et on a, avec leur accord, décidé de mettre en spectacle certains livres que j'avais publiés. Et puis, l'idée des livres audio numériques, elle est venue après, pendant le confinement. Oui, voilà. Donc le spectacle, il est venu de textes d'abord qu'on n'avait pas publiés, puis ensuite de textes qu'on a publiés. Voilà. Et les spectacles, ce sont des lectures en musique. Donc ce sont des lectures à part entière, c'est-à-dire que moi, je lis les textes, et Pierre crée à la fois une bande-son, qui est donc qu'on écoute en direct, et en même temps il joue, donc il est saxophoniste, on parlera mieux que moi, et il joue donc en direct, il accompagne
et une vidéo.
Quand on va pouvoir voir ce spectacle?
Alors on a repris
comme
un
ça
petit
peu, un
peu et oui on a repris, ça y est.
Alors après, la prochaine date dans le coin, c'est à Vauvert. C'est le 4 juillet à Vauvert. Qui est le festival de jazz à Junas, qui est un festival en fait que je connais bien parce que ce sont tous des amis, et que j'ai enregistré un disque live en 2019, il y a 2 ans, un disque produit par Jazz à Junas et Radio Clapas, qui s'appelle Tamam, qui est avec un joueur de oud égyptien, dont Junas je connais très bien, Et ils ont décentré sur plusieurs villes, dont Pixelles-Loup, à Vauvert et Junas. Et donc nous, cette année, on était invités pour faire ces lectures-concerts le dimanche 4 juillet, à partir du matin 11h.
Oui, on donne 4 spectacles, alors c'est réparti sur la journée, mais de toute façon, les horaires, entre les spectacles, il y a des ateliers pour les enfants, donc c'est un peu une journée complète.
Il doit y avoir une page Facebook, oui. Une page Facebook ou un blog.
Oui, puis ils ont, oui, bien sûr.
Vous avez une page ou un blog où on peut
Oui, alors notre site, c'est simple, c'est babouchesaoreilles.com. Donc babouchesaoreilles, c'est le nom de notre site, structure.
Je l'ai mis à jour, c'est pas joli.
Donc c'est babouchesaoreilles.com.
Donc les spectacles cet été, des projets?
Oui, plein. Alors bon, déjà, les spectacles, il y en a d'autres. On fait aussi partir en livre pour l'Aglo de Montpellier. Donc moi, je le fais traditionnellement pour des ateliers. Et puis l'année dernière, évidemment, avec le confinement, nos spectacles ont été annulés. C'était la première fois qu'ils nous demandaient de produire des spectacles pour eux. Et là, cette année, on donne Ruby, qui est un album qui est paru chez Lirabel autour de la ségrégation. C'est tout début juillet. Donc là aussi, le programme, il est disponible sur le site de Partir en Livre. Oui. Donc ça, c'est les premiers concerts là de reprise.
Ça fait du bien.
Oui.
Oui, oui.
Et au portefeuille aussi.
Ouais,
oui, bien sûr, les deux.
C'est
bien
clair,
sûr,
oui.
Les deux. C'est un plaisir de reprendre, de jouer, et puis de retrouver tous les gens en fait qui nous avaient contactés en 2019-2020, et où on commençait, nous, la maison d'édition commençait à exister, donc il y a au début du confinement. Et on commençait déjà à avoir pas mal de retours, de demandes. Il y avait des médiathèques, il y avait des petits festivals, tout ça, qui s'intéressaient à notre projet, à la fois de sortir des livres audio, de sortir des livres à musique et de faire des lectures-concerts. Donc ça plaisait à tous ces festivals qui souvent tournent autour du mot. Et puis patatras, tous ont été obligés d'annuler. Mais là, alors, soit ils reprennent contact avec nous, soit on les relance pour voir si c'est possible. Et là, ça fait une semaine qu'on a, qu'on
frais,
a commencé
hein,
à travailler là-dessus. Ouais. Et ça bouge pas mal. Après, ça, là, au mois d'août, je pense qu'on fera une pause.
Oui.
Mais on commence le 4 septembre à Montagnac, à côté de Pézenas, qui est mon village d'enfance, où il y a un festival depuis plusieurs années tenu par des gens extraordinaires qui s'appelle Démoniac. C'est le festival des mots de Montagnac. Et où là, on y passe quasiment chaque année avec des projets différents, où on rejouera cette année, le 4 septembre, Les Jours de Poudre Jaune, qui est un livre qu'a écrit Isabelle, parce qu'il se trouve que ce livre a une attache particulière à Montagnac, c'est l'histoire de ma mère, et qui habite toujours à Montagnac, à 95 ans, et qui est toujours là. Donc pour les Montagnacois, c'est quelque chose d'important, donc on le rejoue à Montagnac, là, dans ce cadre-là.
Ben, l'entretien se termine, mais moi ce que je vous propose, c'est Isabelle de vous rencontrer pour le livre dont vous venez de nous parler.
Les Jours de Poudre Jaune, oui.
Voilà,
avec plaisir.
Hein. Et puis de faire une belle matinale ensemble pour que vous nous parliez des rencontres de la Montagnac.
Ouais, voilà. Avec plaisir.
Avec plaisir.
Merci beaucoup en
merci
tout cas
à vous.
Deux, merci. Au revoir.
Au revoir.